La Bibliothèque Orbitale, épisode 21.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.
Résumé de l'épisode précédent. Aujourd'hui est un grand jour pour Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique. Et c'est avec une fierté bien légitime qu'il a accepté de se rendre à Saint-Anduy-sur-la-Glisse, riante bourgade des bords de Seine, pour inaugurer Pitouland, le parc d'attractions consacré à ses exploits. Aucun aventurier de l'espace n'a eu droit à un tel honneur avant lui. Pitou est donc d'autant plus impatient de découvrir les diverses attractions inspirées de ses hauts faits d'armes. Hélas, ce qu'il découvre sur place est loin de ressembler à ce qu'il avait imaginé. La réplique à l'identique de son vaisseau spatial, le Cormoran Hautain, ressemble en fait davantage à une imitation approximative de Fiat Punto, faite de planches de bois vermoulues et de bouts de plastique de récupération. Les incroyables exploits sous-marins de Pitou, supposés rendre hommage à ses nombreuses interventions sur diverses planètes aquatiques, n'est qu'une banale pêche au canard. Et les 100 000 milliards de merveilles de l'univers, consacrées à la diversité des innombrables cultures extraterrestres qu'il a visitées, n'est qu'une immonde baraque à frites, dont les effluves graillonneuses se répandent sur tout le site. Et puis, pire que tout, il y a ces gugus vêtus d'armures en caoutchouc et affublés de masques grimaçants, qui sont censés le représenter et accueillir le public. En découvrant ces êtres hideux et repoussants, le sang de Pitou ne fait qu'un tour, et il se félicite d'avoir apporté avec lui son lance-flamme atomique. L'inauguration promet d'être chaude, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur finit de bricoler un petit alambic qui devrait lui permettre de tenir jusqu'au prochain ravitaillement de la station. En attendant de pouvoir goûter l'alcool de rutabaga qu'il prévoit de distiller bientôt, il se replonge dans une époque où ce genre de pratique était illégal, grâce à Desolation Road de Jérôme Noirez et Mr. Shivers de Robert Jackson Bennett, avant de se plonger dans l'adaptation télévisée du Navire Étoile que vient de ressortir Lina en DVD. En attendant la sortie en octobre du prochain numéro de Bifrost, qui lui consacrera un dossier, causons un peu de Jérôme Noirez à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Desolation Road, aux éditions Gulfstream. L'auteur nous emmène ici dans l'Amérique de la Grande Dépression et nous invite à suivre le destin d'un jeune couple, June et David. Une histoire dont on sait d'emblée qu'elle finira mal, puisque quand le récit démarre, David a été exécuté et June se trouve dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin. Le roman retrace leur parcours à travers le récit qu'en fait June à un journaliste venu l'interviewer. Desolation Road, c'est donc l'histoire de deux gamins issus de milieux modestes qui, d'accident en déveine, vont devenir des parias et des criminels. Il y a d'abord le meurtre accidentel du père de David, un fermier alcoolique et violent, qui aura voulu brutaliser son fils une fois de trop. Et puis il y a la fuite, quelques mauvaises rencontres et l'engrenage fatal. Parce que le sort s'acharne contre eux, et parce que dans l'Amérique du début des années 30, où des millions de chômeurs se retrouvent à la rue, il n'y a pas de place pour eux. La littérature et le cinéma américain regorgent de personnages semblables à David et June. Le roman de Jérôme Noirez se situe à mi-chemin entre le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et le Sugarland Express de Steven Spielberg. Malgré la gravité des crimes qu'ils commettent, il est difficile de ne pas éprouver énormément de sympathie pour le couple, pour sa candeur et pour le tragique de sa situation. À travers le destin de ces deux personnages, Jérôme Noirez fait surtout le portrait d'une période noire de l'histoire américaine, dont il parvient remarquablement bien à faire ressentir la violence. Dans ce contexte, l'histoire de June et David, même si elle est plus spectaculaire, n'est finalement pas tellement différente de celle de millions d'autres Américains de cette époque, victimes d'une société qui n'aura pas accordé la moindre chance de s'en sortir. Comme les précédents livres de Jérôme Noirez parus chez Gulfstream, Desolation Road est un roman pour la jeunesse, ce qui ne l'empêche pas de s'adresser à des lecteurs de tous âges. Donc, si vos rhumatismes vous le permettent, courez vous le procurer. Everything's twisted, my que Desolation Road nous a ramenés à la période de la Grande Dépression, restons-y encore un peu, le temps d'évoquer rapidement Mr. Shivers, le premier roman de Robert Jackson Bennett, paru aux éditions Eclipse en mai dernier. L'histoire est celle de Marcus Conley, un homme dont la vie a été brisée le jour où sa petite fille a été assassinée. Obsédé par ce meurtre, Conley a tout quitté pour se lancer à la recherche du tueur, un personnage énigmatique que la rumeur a surnommé Mr. Shivers. Car, comme il va très vite le découvrir, Conley n'est pas le seul à s'être lancé sur les traces de ce tueur en série, qui sème la mort partout où il passe. Mr. Shivers, c'est une histoire de haine, de vengeance et surtout d'obsession où les victimes du tueur risquent de perdre ce qu'il leur reste d'humanité pour pouvoir affronter leur bourreau. Robert Jackson Bennett a écrit un roman extrêmement sombre et désespéré, où l'on voyage en compagnie des vagabonds que la misère a jetés sur les routes, et au milieu des passagers clandestins qui tentent de ne pas se faire abattre par les gardes des chemins de fer. Un monde où la mort surgit sans prévenir, et où aucune autorité ne vous viendra en aide. Et par-dessus tout, il y a la figure de ce Mr. Shivers, une figure teintée de fantastique sur laquelle se focalise la haine et le désespoir de tous, et dont l'ombre est omniprésente tout au long du roman. Dans le genre, Mr. Shivers est une belle réussite, le genre de roman fantastique qui fonctionne grâce à l'ambiance noire dans laquelle il baigne en permanence, et grâce à un vilain charismatique et mémorable. Une jolie découverte à mettre à l'actif des éditions Eclipse.
The distant future, the year 2000. The distant future, the year 2000. The distant future, the distant future.
Après la Brigade des Maléfices, dont je vous disais quelques mots dans l'épisode précédent, intéressons-nous aujourd'hui à un autre titre figurant au catalogue de la collection Les Inédits Fantastiques, Le Navire Étoile. Il s'agit donc de l'adaptation du roman D.C. Tubb, paru au Fleuve Noir en 1958, puis 2 ans plus tard aux éditions d'Itis, sous le titre Objectif Pollux. L'histoire est celle d'une arche stellaire qui a quitté la Terre depuis 3 siècles à la recherche d'un monde habitable. Un univers clos et à bien des égards impitoyable, où chaque occupant doit se montrer utile à l'ensemble de la société, sous peine de finir au recycleur. Une machine parfaitement huilée, qui va pourtant se détraquer lorsque Eddie Burns, nouvellement nommé officier de la psychopolice, reçoit l'ordre d'éliminer le père de la femme qu'il aime. Diffusé en 1962, Le Navire Étoile marque les véritables débuts de la science-fiction à la télévision française. Une expérience qui restera malheureusement sans lendemain, Michel Subiela, l'homme à l'origine de cette adaptation, n'ayant pas réussi à convaincre les décideurs de renouveler cette expérience. Un demi-siècle plus tard, voir ce téléfilm demande une bonne dose d'indulgence. D'abord parce qu'il a été réalisé pour l'essentiel dans les conditions du direct, selon les normes de l'époque, ce qui le rapproche davantage du théâtre filmé que de la fiction télévisée à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Conséquence directe de ces conditions de tournage, peu d'action et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. Filmé en plan fixe et interprété par des acteurs qu'on imagine volontiers plus à l'aise sur les planches que devant les caméras. N'empêche que, même si ce téléfilm accuse le poids des ans, il mérite d'être redécouvert. D'abord parce que, sur le fond, l'adaptation de Michel Subiela reste très fidèle au roman D.C. Tubb. Mais également pour ses parties prises esthétiques qui, malgré des moyens modestes et des décors bricolés, donnent au film un cachet original. Enfin et surtout parce que, en regardant Le Navire Étoile, on se met à rêver de ce qu'aurait pu être la télé française si son public avait été plus enthousiaste et ses décideurs moins frileux. Et puis, tant qu'on en est à parler D.C. Tubb, rappelons que le dernier numéro en date de Galaxy lui consacre tout un dossier, et que le mois prochain, Rivière Blanche publiera Dimension D.C. Tubb, volume composé par Richard D. Nolan et réunissant un roman et 9 nouvelles. Je vous en reparlerai si vous êtes sage.
Binary Solo 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 Boogie. 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 once again without emotion.
The humans are dead.